autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, amis auditeurs, pour nous demander pourquoi faire des ponts plutôt que des murs. Question toujours d'actualité, soulevée par la chercheuse en sciences politiques Alexandra Novoselov en octobre dernier sur notre antenne. Alexandra Novoselov nous faisait traverser 9 ponts emblématiques, situés dans des zones de crise ou post-conflit et franchissant des frontières emblématiques entre Palestine et Israël, le long du Rio Grande, entre Mexique et États-Unis, en Afrique de l'Ouest, sur le fleuve Mano ou encore en Europe, dans l'ancienne Yougoslavie. Quelle est la place de ces ponts dans les processus de paix? Comment les ponts, symbole du génie humain, signe d'ouverture, de passage et de traversée, à la fois lieu de migration et point de contrôle, parviennent-ils à réunir des populations qui ont été divisées? Font-ils vraiment lien, ces ponts, ou renforcent-ils au contraire une séparation déjà existante? Pourquoi les hommes les détruisent et comment les reconstruire? Autant d'interrogations que nous vous proposons de retraverser ensemble autour de la question « Pourquoi faire des ponts ?» Bienvenue. Bonjour Alexandra Novoselov.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous, surtout d'être venue de New York, profitez de votre passage à Paris pour le faire. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheuse invitée à l'International Peace Institute de New York et chercheuse associée au centre Thucydide de l'université Paris 2, Panthéon Assas. Vous venez de publier, Alexandra, aux éditions du CNRS et aux éditions des Ponts, Des Ponts entre les Hommes, un très bel ouvrage engagé, nourri de votre propre expérience sur tous les continents et tous les terrains conflictuels, illustré de vos propres photos dans toutes les zones post-conflit que vous avez traversées. C'est en quelque sorte la suite d'un premier ouvrage, Des Murs entre les Hommes, que vous aviez publié à la Documentation française. Pour paraphraser Isaac Newton, que vous citez d'ailleurs, les peuples construisent trop de murs et pas assez de ponts. C'est ce qui vous a incité précisément à passer des murs aux ponts?
Oui, tout à fait. C'était le point de départ de ce nouvel ouvrage avec une méthode un peu similaire, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des populations qui habitent dans ces zones de crise, près de ces ponts, de pouvoir raconter à la fois leur histoire, mais l'histoire de la région dans laquelle ils vivent et le rôle de ces ponts dans soit leur vie quotidienne, soit dans la crise qu'ils vivent, c'est-à-dire est-ce que ces ponts maintiennent la séparation ou est-ce qu'ils sont une voie d'ouverture?
Parce que justement, j'aurais vous demander qu'est-ce que c'est qu'un pont, parce qu'on a l'impression que c'est effectivement un symbole d'ouverture, de passage, de lien, mais en lisant votre livre, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça.
Oui, c'est beaucoup plus compliqué. Le pont est un ouvrage complexe, d'une certaine manière.
Ouvrage du génie humain.
Tout à fait. Mais je crois que la complexité fait partie de l'espèce humaine. Donc, c'est un symbole à la fois d'ouverture, mais c'est aussi, ça peut être un symptôme de fermeture et d'un espèce de blocage qu'il peut y avoir ici et là. Et ce qui rajoute encore à la complexité, c'est par exemple à Mitrovica, où vous avez le pont Austerlitz, qui est le principal pont que l'on voit dans la ville, qui est fermé, pratiquement fermé. Et à 500 mètres, vous avez un autre pont qui est resté ouvert pendant toute la durée de la crise. Donc c'était aussi de montrer cette ambiguïté. Et puis, les ponts par rapport au mur... Comment se fait la relation entre les deux? Parce qu'il y a beaucoup de ponts qui passent au-dessus de murs.
Par-dessus les murs, et on y reviendra, mais souvent, quand ça va mal, on fait des murs, et quand ça va un peu mieux, on construit ou on reconstruit des ponts. Autour de la question pourquoi et comment faire des ponts, je propose de commencer cette traversée par quelques pistes de réflexion sonore. C'est le mix Sur le pont, dans tous ses états, d'Apolline Verlon-Raison.
Un pont géopolitique.
Il rejoint la Jordanie à la Cisjordanie. Il faut parfois jusqu'à 10 heures pour le traverser. Il est jalonné de 3 postes frontières palestiniens, israéliens et jordaniens. Ce pont lourd en béton blanc, surdimensionné par rapport au faible débit du fleuve qu'il enjambe, le Jourdain. Le pont Allenby constitue aujourd'hui pour les Palestiniens de Cisjordanie l'unique accès au monde extérieur depuis 1991.
Des espions qui se croisent sur un pont entre l'Est et l'Ouest, c'est arrivé ce matin à Berlin.
Une des frontières les plus secrètes au monde.
Nous sommes à peu près 400 mètres du régime de Kim Jong-un, de l'autre côté du fleuve Yalou. C'est un véritable trait d'union entre la Chine et la Corée du Nord.
Cette semaine à New York, on a inauguré le plus haut, le plus long, le plus grand, le plus beau pont du monde. Enfin, un pont typiquement américain, the first one in the world. Et ce pont, c'est le pont de Verrazzano.
D'un côté de ce pont, la Bulgarie, de l'autre, la Roumanie. Cet ouvrage d'art qui relie les deux rives du Danube a été inauguré ce vendredi par les chefs de gouvernement bulgares.
Un pont sur l'Oyapock pour relier le Brésil et la Guyane française. Un symbole de coopération qui a coûté plus de 25 millions d'euros et pourtant, depuis 2011, il attend désespérément ses premiers usagers.
Le fleuve Rio Grande a été utilisé comme frontière entre les deux États sur plus de 2000 km de long.
Symbole de cette guerre, le pont de Mostar, détruit en 93 par les obus croates. Jadis emblème de la discorde entre musulmans et croates, il est aujourd'hui le signe de la reconstruction de tout un pays.
On va s'arrêter, Alexandra Novoselov, peut-être sur ce pont de Mostar en Bosnie-Herzégovine, jadis symbole de la guerre et aujourd'hui de la réconciliation, on peut le résumer comme ça ? Non, c'est plus compliqué là aussi.
Oui et non, parce qu'en fait on s'aperçoit que ce pont est un pont touristique en réalité, mais que la séparation demeure entre les communautés. La ville est divisée par quartiers bien distincts et les gens ne se côtoient pas ou très peu. Donc c'est ça qui frappe aussi à Mostar.
Donc il ne suffit pas de reconstruire des ponts.
Non. C'est là où il faut aller plus loin. Ça passe par des initiatives locales de réconciliation. Le pont est juste un emblème,
un marqueur,
un symptôme de ce qui est et un emblème de ce qu'on veut avoir. Mais il ne se suffit pas à lui-même. C'est comme les murs. On croit que les murs séparent, permettent de surveiller, mais en fait on ne peut pas y substituer un vrai système de surveillance humain.
Et les ponts transportent aussi, si j'ose dire, toute une histoire. Vous parlez toujours dans cette région de l'ancienne Yougoslavie, du pont Tito. Alors là, c'est un pont nostalgique d'une coexistence pacifique, justement.
Alors, c'est un pont qui est à quelques encablures du pont de Mostar et qui marque aussi la division entre le quartier croate et le quartier musulman. Tout ça sont des marqueurs un peu d'une division qu'on a du mal à dépasser.
Oui, les ponts ne relient pas seulement, ils divisent ou ils marquent une séparation aussi.
Oui, c'est exactement ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, parce que de dépasser un peu l'image d'Épinal qu'on a du pont et de montrer que justement dans des situations de crise, c'est beaucoup plus complexe que ça et que le pont peut avoir plusieurs rôles en réalité.
Le pont, il peut aussi finalement contribuer à geler des conflits ou à être un pont sur des conflits gelés. Vous parlez de conflits dont on entend peu parler, entre Géorgie et Abkhazie par exemple. Là, c'est vraiment un pont qui gèle le conflit.
Qui gèle et qui en même temps
permet quand même
maintient un lien entre une population qui est en réalité de part et d'autre du pont. Et donc, vous avez des familles que la guerre a séparées. On a ce qu'on appelle une ligne administrative, puisqu'il n'y a pas de frontière reconnue sur le fleuve Ingouri.
Entre Géorgie et Abkhazie.
Entre Géorgie et Abkhazie, l'Abkhazie étant une région séparatiste de la Géorgie. Et donc, mais ces familles-là subissent en quelque sorte cette situation. Et pour que les uns et les autres continuent à se voir, eh bien, il y a ce pont.
On peut traverser le pont.
Le pont se traverse, c'est même le pont principal, d'ailleurs, pour ceux qui achèteront le livre, c'est la couverture du livre.
On voit un homme à vélo qui le traverse, mais
exactement.
Le pont est assez vide. Hein.
Et il y a d'autres ponts qui, le long de cette ligne administrative, qui ont été pour beaucoup détruits, et que récemment, certains habitants ont voulu reconstruire avec vraiment des bouts de ficelle ou quelques planches de bois. On voit que c'est vraiment c'est du bricolage, mais pour permettre aux gens des deux rives de continuer à se voir, à communiquer, à aller par exemple à l'hôpital côté géorgien parce qu'il n'y a pas ces facilités-là côté abkhaz, etc. Pour commercer aussi, ça c'est très important.
Et oui, les ponts sont des lieux d'échange et de commerce,
voilà,
évidemment.
Pour continuer à survivre, pour vendre ses cultures d'un côté ou de l'autre, c'est important de maintenir les liens.
Pourquoi les hommes ont besoin de faire des ponts? Je propose d'écouter Build a Bridge sur RFI, morceau signé du groupe NACO and Medicine for the People, originaire de l'Oregon, un groupe qui fait aussi un pont musical entre Apaches, Portoricains et Philippins.
Should prepare me for full battle. I am a witness, so crystal bullets, I drop the hatchet, you won't forget it. Should prepare me for full battle. I am a witness, so crystal bullets, I drop the hatchet, you won't forget it. Say, mine eyes have seen nothing but trouble. You must make peace with them gods and the devils. I can be rude, boy, I am not subtle. I tend to stick in and burst out them bubbles. We are the ones we've been waiting to rumble. I torch my enemies out with a candle. Music is a weapon, make empires crumble. We bring them bankers and wealthy to tremble. What we know is what we're owed. Can't be too careful, shoot flaming arrows. Hitting them wicked, burning them bridges, share it. What we know is what we owe. Can't be too careful, shoot flaming arrows. Hitting them wicked, burning them bridges. Society. We struggle with thousand drugs and sobriety. We're not from here, but born here respectively. Migrated cause America raped my country. I'm a J-Bear with the white man money. I'm on Indian time, you know you cannot rush me. I can be vicious, malicious, and ugly. A danger to darkness, you better run quickly. What we know is what we're out. Can't be too careful, shoot flaming arrows. You think them wicked, burning them bridges ahead. What we know.
Bridge sur RFI avec le groupe Apache portoricain et philippin NACO and Medicine for the People. Jolie découverte d'Apolline autour de la question pourquoi faire des ponts, en compagnie de la chercheuse en sciences politiques Alexandra Novoselov, qui vient de publier aux éditions du CNRS Des ponts entre les hommes. Avec tout de suite une question pour vous, Alexandra, soulevée par le cosmologiste Jean-Philippe Usan, qui était récemment notre invité.
On voit un pont, par exemple, sur une rivière ou au-dessus d'une falaise. Et donc, ce pont sert à supprimer une frontière qui existait entre deux parties de l'espace. Je trouve ça assez étonnant que l'être humain, à la fois, veuille abolir des frontières naturelles pour pouvoir communiquer avec l'autre et, en même temps, crée des frontières, crée des murs. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça d'un point de vue sociologique ou historique ?
Vous avez une réponse ou des pistes de réponse, Alexandra Novoselov?
Alors, je ne sais pas s'il supprime vraiment la frontière ou plutôt il la relie. Il relie deux versants d'une frontière, deux parties. Et souvent, Quand il n'y a pas de pont, il n'y a pas de lien. On voit, par exemple, en Afrique, l'un des chapitres est sur le fleuve Mano. C'est le seul pont qui existe.
C'est entre trois pays,
Entre la Sierra Leone et le Liberia.
Oui.
Il n'y a pas de pont, par exemple, au sud de la Côte d'Ivoire, entre le Liberia et la Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'un bac. Et donc, la circulation est bien moins fluide si vous avez juste un malheureux bac qui.
Le pont relie, mais marque la frontière en même temps, c'est ça?
Oui, voilà.
Il permet le passage, mais il marque la frontière.
Oui, comme une borne marque la frontière. Je crois qu'une frontière, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Une frontière, c'est quelque chose qui a été accepté par deux parties, contrairement au mur, qui est quelque chose qui est complètement unilatéral. Donc je crois que la frontière, c'est quelque chose de tout à fait positif, et que le pont qui traverse qui fait le lien entre deux pays en réalité, au-dessus d'un fleuve, au-dessus d'une crevasse, enfin d'un canyon ou quoi que ce soit, c'est plutôt quelque chose de positif, parce que sinon les gens communiquent moins ou passerait moins d'une rive à l'autre.
Encore faut-il pouvoir justement communiquer, passer d'une rive à l'autre, un pont ambigu, un pont qui justement est à la place du mur, c'est notamment sur le long du Rio Grande, tout le long de la frontière entre le Mexique et l'Amérique, une région qu'on pourrait appeler quoi, même Mexamérique, mais qui est...
C'est la Mexamérique,
c'est la
troisième nation comme on l'appelle là-bas. Qui est un pays en soi presque, tout le long de la frontière, qui va de San Diego sur le Pacifique vers Brownsville, Matamoros sur le golfe du Mexique.
Énorme frontière.
Oui, 3200 kilomètres de long. Et la partie du Texas, en fait, la frontière est marquée par le Rio Grande. Et donc, tout au long de cette frontière, il y a les ponts qui permettent de passer.
Ce sont des ponts internationaux et ce sont des villes frontières à chaque fois.
Tout à fait. Des villes frontières, des villes parfois jumelles, qui ont été jumelles avant que la frontière soit américaine.
Et la frontière est américaine et c'est parfois compliqué pour les Mexicains de passer le pont. Là, dans un sens, ça passe facilement et dans l'autre, plus difficilement. On
peut
le dire comme ça ?
C'est de plus en plus difficile. Alors, la caractéristique principale de ces ponts dans cet endroit du monde, c'est que tout est fait pour accélérer la circulation, le trafic commercial sur ces ponts. Il y a d'ailleurs des ponts qui ont été très récemment construits, inaugurés pour avoir encore plus, augmenter encore plus le trafic commercial et donc des ponts qui sont uniquement dédiés à ce trafic-là. Vous avez les camions de toute l'Amérique latine et certainement de l'Amérique centrale qui passent par cette frontière-là. Laredo, qui est à peu près au milieu de la frontière entre le Texas et le Mexique, est le troisième port commercial des États-Unis.
Donc c'est trafic de marchandises, passage de marchandises, voilà, c'est échange de marchandises, pour les humains c'est plus compliqué.
Tout à fait, ça montre à quel point ces ponts sont importants d'un point de vue commercial, mais bien entendu le passage des personnes est beaucoup plus compliqué et ces ponts ressemblent plus à des goulots d'étranglement souvent pour ces personnes, avec tout un système avec des visas, avec des visas frontaliers et puis aussi un passage quand même à la frontière qui est relativement difficile parce que vous êtes un peu à la merci de l'humeur du garde frontière.
Ça c'est ce qui se retrouve dans beaucoup de ponts frontières du monde, où les passages sont des fois extrêmement longs, notamment pour les hommes, parfois aussi pour les marchandises, mais notamment pour les hommes.
Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est le pont permet aussi d'amener les gens vers un seul point de passage, Et là, tous les contrôles sont permis, si je puis dire.
Oui, on peut contrôler ainsi autour de la question. Pourquoi faire des ponts, tout de même, plutôt que des murs? On continue notre traversée dans 3 minutes. Vous restez avec nous, bien sûr, Alexandra Novoselov. On se retrouve juste après le flash d'info pour poursuivre ce tour du monde des ponts, depuis celui sur le Jourdain, entre Israël et Palestine, qui symbolise, lui, un conflit insoluble, à ceux de la réconciliation sur la rivière Mano, dont vous avez parlé, entre Côte d'Ivoire, Libéria et Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest. À tout de suite pour faire le point et le pont.
Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie. Autour de la question « Pourquoi faire des ponts plutôt que des murs ?» Question d'actualité soulevée par notre invitée, la chercheuse en sciences politiques Alexandra Novoselov. Dans un ouvrage essentiel, nourri de son expérience sur tous les terrains de crise, illustré de ses propres photos, « Des ponts entre les hommes » vient de paraître aux éditions du CNRS, coédité par les éditions Des Ponts. Justement, comment les hommes ont-ils pu concevoir et édifier des ponts? Je trouve tout de suite un autre éclairage, celui d'une géophysicienne Léa Bello a mené l'enquête dans un film documentaire « À la conquête de l'autre rive » diffusé sur France 5. Enquête donc sur le génie humain de la construction des ponts. Léa Bello au micro de Raphaël Constant.
Quand on s'intéresse à la construction des ponts, on voit que les idées et les méthodes de construction ont évolué au cours de l'histoire et qu'à chaque étape, on retrouve des marqueurs de la société dans la construction en elle-même. Par exemple, on va avoir un pont construit en pierre, puis quand on a commencé à développer l'acier et l'aciérie, on a pu développer des ponts avec des câbles, alors qu'avant, on utilisait des chaînes, et bien avant des cordes, évidemment. Et donc, à chaque étape, à chaque nouveau progrès de la société, on va avoir un nouveau progrès dans la construction du pont. Et donc, c'est comme ça que, quand on regarde l'évolution des constructions des ponts, on voit, en fait, l'évolution technologique de la société. Et puis, après, quand on s'intéresse aux lieux de construction des ponts, on a aussi une vision de l'importance de certains endroits et comment certaines voies sont ouvertes par rapport à la géopolitique du lieu. C'est-à-dire que du coup, on a des ponts qui vont être à la fois un lieu de passage et un lieu d'échange entre parfois deux sociétés complètement différentes ou deux pays potentiellement en crise.
Le pont, œuvre du génie humain, qui nous en apprend beaucoup sur nous, sur nos techniques, mais aussi sur notre humanité en crise parfois, Alexandra Novoselov.
Oui, c'est ce que j'ai voulu montrer avec ce livre, c'était de montrer des sociétés qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les reportages ici et là. Et puis, alors c'est sûr que c'est un point de rencontre entre deux pays, entre deux sociétés, mais c'est souvent un point de un lien entre une même société ou un même peuple, une même population qui a été coupée à un moment donné par une frontière ou par un conflit, par une crise. Et donc c'est un peu des deux. Ça fait se rencontrer les gens et ça maintient des gens qui ne se connaissent pas, et ça aussi ça maintient des liens familiaux, commerciaux, entre deux peuples.
Toute l'ambiguïté des ponts, j'ai envie qu'on s'arrête sur un pont assez incroyable, c'est celui de la rivière Tumen, qui mène de la rivière Tumen au fleuve Yalou, entre la Chine et la Corée du Nord. Vous avez pu y aller, prendre des photos, il y a des touristes chinois qui vont sur ce pont.
En réalité, c'est une zone très touristique du côté chinois. En fait, on y va en simple touriste, c'est très intéressant. Vers le nord de cette frontière, c'est une zone où il y a une forte minorité coréenne qui sont là depuis des années, qui sont des Coréens chinois, en fait, ou des Chinois coréens. Et puis, on arrive aux confins d'une frontière, d'une triple frontière entre la Russie, la Chine et la Corée du Nord.
zone normalement hautement stratégique ou
Oui, alors... mais qui reste un lieu touristique quand même. Hein. Y a des monuments, il y a des guides touristiques qui vous amènent vers ces lieux-là. Et puis, c'est une zone qui s'est énormément développée ces dernières années et chaque pont est en fait le prétexte, si je puis dire, à une zone économique franche. Ce qui montre d'abord ce qui montre que la Chine l'intérêt stratégique chinois c'est de développer c'est de stabiliser ses frontières par le commerce bien entendu ça vient en espèce de confrontation aujourd'hui avec ce qui se passe avec la Corée du Nord et tout le régime de sanctions qui a été décidé par le Conseil de sécurité. L'enjeu se situe là, avec Dandong, qui est la ville, la plus grande ville sur cette frontière-là, où il y a 80% du commerce entre la Chine et la Corée du Nord, qui se fait sur ce pont de l'amitié. Qui se trouve là. En même temps, c'est aussi une frontière mémoire, lieu de mémoire, des ponts qui ont été détruits pendant la guerre de Corée et qui sont, là encore, de véritables lieux touristiques entretenus pour entretenir cette mémoire de la guerre de Corée.
On en apprend énormément sur les ponts, sur la situation géopolitique, mais surtout ces ponts dans des zones en crise. Les ponts, ils sont aussi... on les voit aussi beaucoup au cinéma, dans les films d'espions. On pense évidemment au pont emblématique de Berlin. Il y a même eu un film, je crois, de Spielberg, Le pont des espions.
Oui, tout à fait.
À ce sujet.
Sur le Glienicke-Brücke, qui est aujourd'hui en fait à Potsdam, dans la banlieue de Berlin, qui est un pont... tout à fait lambda, si je puis dire, où on passe tout à fait normalement au milieu de la campagne, en réalité. Il y a aussi le Oberbahnbrücke qui est dans Berlin, près de la East Side Gallery, qui est le pan du mur qui reste, qui est aujourd'hui devenu aussi un lieu de mémoire, en réalité.
Oui, des checkpoints qui deviennent des lieux de mémoire quand la crise est passée.
Tout à fait. Des ponts, des murs et des checkpoints qui deviennent des lieux de mémoire.
Oui, et c'est pas, enfin, c'est très différent, un pont et un mur. Vous disiez, un mur, ça sépare et un pont, ça peut relier. Mais un pont, ça ne relie pas toujours. Ceci dit, il faut qu'il y en ait des ponts. Vous citiez l'exemple en Afrique de l'Ouest de la rivière, enfin, du fleuve Mano, entre Sierra Leone et Liberia, Côte d'Ivoire aussi, où il faudrait construire et qu'il y ait plus de ponts.
Oui, il y a sur la rivière Cavalli. Et ces affluents, il y a très peu de ponts, en fait. Et donc, c'est un problème pour les gens. Ils sont obligés de communiquer au moyen de barques. Et voilà, ça faciliterait les échanges s'il y avait plus de ponts, en quelque sorte.
Les échanges commerciaux, les échanges économiques, mais aussi les échanges entre les gens qui se débrouillent quand même. Hein, parce que vous dites que les frontières sont quand même assez poreuses et que de toute façon, ils se débrouillent pour passer. Mais un pont, ça serait plus simple.
Oui, on trouve toujours, de toute façon, un moyen de traverser une frontière. Surtout qu'en réalité, des deux côtés sont les mêmes populations. Et qu'elles ont, encore une fois, besoin de commercer pour survivre, besoin de s'entraider d'une certaine manière pour survivre. Donc, on trouve toujours un moyen de contourner une frontière fermée, un pont fermé ou un mur. Au moment où j'étais dans l'Ouest ivoirien, la frontière était théoriquement fermée en raison de la crise Ebola. Voilà, ça les...
On trouvait quand même moyen de passer. Autour de la question, pourquoi faire des ponts avant d'envisager comment on arrive justement à passer même sans pont, avant d'envisager aussi leur reconstruction, peut-être commencer par arrêter leur destruction. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un astrophysicien syrien, Mohamed Ali Samouné, aujourd'hui exilé en France, en poste temporaire à l'Observatoire de Paris, grâce au programme PAUSE, d'accueil des scientifiques en danger. Il était récemment notre invité, on écoute Mohamed Ali Samouné.
Il y a beaucoup de ponts qui sont détruits en Syrie. Et, comme vous le savez, la Syrie, il y a l'Euphrate et il y a beaucoup de villes qui se trouvent. Je peux citer des réseaux qui est vraiment, il y a le deux côtés, qu'on s'appelle Chamillet et le Badier. Et alors, malheureusement, tous ces ponts sont détruits. La même chose dans une autre ville qui est Raqqa, qui se trouve sur l'Euphrate, et tous les ponts quand même aussi sont détruits. Et c'est pas géographiquement, mais au niveau psychique, c'est douloureux pour les gens qui vivent là-bas, parce que nous vraiment coupons les liens entre eux. Ils ne peuvent plus contacter, même s'ils sont tous de la même famille, la même tribu qui se trouve là-bas. Alors c'est malheureux. Et il y a beaucoup quand même des ponts historiques qui sont détruits.
La guerre détruit les ponts.
Oui, tout à fait. Et je peux parler de ma ville natale, Alep. Et on parle toujours d'Alep Est et Alep Ouest. Mais depuis que je suis né, j'ai jamais dit Alep Ouest et Alep L'Est. Et ça me fait vraiment mal quand nous avons débordé pour dire les gens qui se trouvent là-bas, les gens qui se trouvent là. Alors, ça n'avait pas de sens. Et malheureusement, avec la guerre, et c'était concrètement concrétisé sur la terre.
Vous voulez réagir, Alexandra Novosseyev, à ce témoignage de l'astrophysicien syrien Mohamed Ali Samouné, aujourd'hui exilé en France?
Oui, c'est vrai que malheureusement, les ponts sont souvent les premiers ouvrages à être détruits lors d'une guerre pour justement avoir cet effet psychologique.
Oui, il parlait de l'effet psychologique.
Sur les gens. Parce que c'est quelque chose qui, bien entendu, frappe énormément, même si après les gens trouvent des moyens
de passer quand même.
Mais voilà, c'est l'effet psychologique, à mon avis, qui est recherché.
Et il citait le pont de Dérésope, pont construit par Eiffel.
Oui, que j'avais été voir en 2008 lors d'un voyage en Syrie. Pont très joli. Et bon, c'est malheureux de voir ça.
Reconstruire un pont, est-ce que c'est construire de l'espoir? On dit que l'espoir bâtit des ponts. Dans quel sens ça marche, Alexandra Novosseyev?
Oui, bien entendu. Reconstruire un pont, c'est revenir en arrière, c'est-à-dire revenir avant la guerre, d'une certaine manière. Sauf que la guerre est passée par là. Et que il suffit pas de reconstruire un pont pour reconstruire les liens, la société qui a été traumatisée. On le voit en ex-Yougoslavie. Donc là encore, c'est un peu plus compliqué que ça, et que
parce que les ponts peuvent finalement continuer à marquer les divisions, même quand ils sont reconstruits.
Oui, bien sûr, ça continue. C'est pas parce qu'on a reconstruit un ouvrage qu'on a dépassé qu'on a dépassé la guerre, les traumatismes qu'on a subis. Il faut bien d'autres mesures de long terme. On sait que la paix, c'est quand même une œuvre de long terme. C'est facile de faire la guerre, mais la paix, ça prend beaucoup plus de temps. Ça prend des générations. Dans tous les conflits gelés qui existent sur cette terre, on voit que dépasser les traumatismes, ça prend énormément de temps.
C'est ce que vous avez constaté dans ce travail sur les ponts, parce qu'on est frappé justement de voir que c'est pas si simple que ça, qu'il suffit pas de reconstruire un pont, même si c'est un très bon début, et qu'il faut bien sûr les reconstruire.
Oui, c'est ce que j'avais constaté sur les murs. On voyait que les murs physiques étaient aussi le reflet de murs dans la tête, et aussi dans cet ouvrage-là où on voit que il y a certains ponts, par exemple entre la Transnistrie et la Moldavie.
Alors deux régions que vous m'avez fait découvrir, parce que la Transnistrie, franchement, je savais même pas que ça existait, et pourtant c'est extrêmement intéressant. Donc Transnistrie et Moldavie.
Voilà. Donc la Transnistrie, qui est une région séparatiste de la Moldavie à majorité russophone, et là il y a un pont qui est fermé, Qui est fermé depuis 30 ans et qui ou 20 ans qui maintient cette séparation même si d'autres ponts sont ouverts et là il y a un checkpoint à l'entrée du pont.
Là, c'est un pont séparatiste, c'est pas un pont qui relie.
Donc là, c'est vraiment des ponts qui maintiennent la séparation, qui marquent la séparation, une séparation qui est voulue par la minorité russophone de Transnistrie.
Oui, pour préserver la Transnistrie, c'est comme un bout de d'ex-URSS en fait, qui resterait enfin un peu gelé. Je le dis vite, mais
oui, et une population qui refuse d'être absorbée dans la Moldavie, qui a cette caractéristique d'être une république qui s'autoproclamait majorité russophone, mais qui n'a jamais été reconnue en tant que telle par la Russie, qui reste dans le giron moldave, mais qui n'est pas reconnue comme en tant que telle par la Russie. Donc c'est un peu un jouet pour maintenir la tension aussi
sur cette région. Et cette région, en est la marque. Enfin, ce pont fermé en est la marque.
Et les ponts qui sont sur le Niestre sont des marqueurs de ça, de cette région qui souhaite rester sous l'emprise de la Russie, qui d'ailleurs qui abonde le budget de cette république autoproclamée à plus de 80%.
Autour de la question pourquoi faire ou ne pas faire des ponts, on écoute Amélie et les crayons sur RFI 1000 ponts.
J'habite au bord du monde, le ciel est à ma porte, la terre n'est pas si ronde, alors je prête main forte. Si je pleure, je me noie. Si je penche, je tombe. L'amour et le courage, parfois, ne suffisent pas.
Alors je danse aux cieux, aux esprits, à la force. Alors je fais des vœux, je chante de toutes mes forces. Et mille ponts se font, mille ponts se font.
Il y a ceux qui m'entendent, malgré eux, dans leurs doutes, leurs mains vers moi se tendent. Ils savent que je suis là, que si un jour je tombe, basculera avec moi l'autre partie du monde.
Alors je danse aux cieux, aux esprits, à la force. Alors je fais des vœux, je chante de toutes mes forces.
Le temps est un détail. Si j'y pense, j'attise seulement des feux de paille. Alors je laisse aller que se tournent les pages, les minutes, les années. Depuis, je n'ai plus d'âge.
Alors je danse aux cieux, aux esprits, à la force. Alors je fais des vœux, je chante de toutes mes forces. Et mille ponts se font, mille ponts se font, mille ponts se font.
Ponts sur RFI, Amélie et les crayons. Autour de la question pourquoi faire des ponts, en compagnie d'Alexandra Novosseyev qui vient de publier Des ponts entre les hommes. Et tout de suite, une nouvelle question pour vous, Alexandra, posée par Séverine Kodjo-Granvaux, philosophe et journaliste basée à Douala, au Cameroun.
Comment faire que les éléments naturels ne se transforment pas en frontières? C'est-à-dire, comment faire que nos chaînes de montagnes, nos fleuves qu'on a tendance à considérer comme des éléments de séparation entre des populations deviennent justement ce qui permet de lier les populations et de tisser un lien entre elles.
Vous avez des pistes, Alexandre Novosseyev?
Il faut construire des ponts.
Il faut construire des ponts, hein, c'est ça, il n'y a que ça à faire. Hein. Mais des ponts qui ne bloquent pas, parce que j'ai envie de nous arrêter sur un pont qui bloque, un pont sur une frontière pas vraiment reconnue et qui traverse le Jourdain entre la Jordanie et les territoires occupés, le fameux pont Allenby, source de tous les tracas pour les Palestiniens.
Oui, mais en même temps qui est leur seule ligne de leur voie possible de communication, de survie presque, et de voyage vers l'extérieur. Hein, c'est un pont qui est effectivement, comme vous le dites, source de tracas. Parce qu'il est
tous les tracas, en fait.
Parce qu'il est très, très compliqué. Mais même en tant que touriste, il est très compliqué à traverser.
10 heures parfois pour le traverser.
Complètement.
C'est
avec
un petit fleuve, le Jourdain.
Oui, mais ce que disait l'un des intervenants tout à l'heure, il disait qu'il était surdimensionné par rapport au fleuve, certes, mais il est complètement sous-dimensionné par rapport au commerce entre la Jordanie et les territoires palestiniens. C'est l'enjeu de toute une bataille politique, c'est d'augmenter le commerce, parce que pour avoir un État, il faut qu'il y ait un État viable. Et cet État viable, l'une des sources de financement, c'est bien entendu le commerce. Et pour que ça se fasse, il faut augmenter les infrastructures qui permettent d'amener les marchandises vers l'extérieur. Et ce pont, on s'aperçoit qu'il est complètement sous-dimensionné, qu'il est fait pour un passage de touristes, de personnes qui vont d'un point à un autre, mais ce n'est pas un pont commercial, ou en tout cas, c'est ce que j'ai appelé un pont commercial tronqué. Parce que là, les infrastructures ne permettent pas d'améliorer les flux commerciaux.
Et vous dites, c'est vraiment ce pont à concentrer tous les maux dont sont affligés les Palestiniens, bureaucratie, corruption et tyrannie sécuritaire. Là, on est vraiment, c'est vraiment le symbole d'un conflit qui n'a pas d'issue.
Oui, et en plus, c'est... si vous voulez, les Palestiniens ne passent pas comme les touristes. C'est-à-dire qu'ils ont un passage bien particulier. Ils suivent un processus différent de celui des touristes qui peut prendre énormément de temps, où les gens ne peuvent pas connaître à l'avance combien de temps. Donc c'est très...
Oui, une incertitude absolue.
Une incertitude absolue.
Si on va passer ou pas et en combien de temps.
Si vous avez un avion à prendre, ben vous ne saurez pas quand est-ce que vous pouvez le prendre. Si même vous pourrez le prendre, puisque il y a toujours cette incertitude que les Israéliens ne laisseront pas passer ou ne laisseront pas rentrer chez soi. Donc,
vous êtes Alexandra Nosev, une chercheuse qui n'hésitait pas à dire ce qui vous fâche. Là, en l'occurrence, vous dites que ça ne fonctionne pas, que ça ne va pas, que c'est pas possible de continuer comme ça, et ce pont en est l'emblème.
Oui, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans... Il n'y a pas d'État palestinien viable. S'il n'y a pas d'État palestinien viable, il ne peut pas y avoir de paix. C'est ça qu'il faut comprendre, je crois, parce que là, on est dans une coquille vide. Si on n'a pas le droit de circuler à l'intérieur même de son État, il n'y a pas de possibilité de s'exprimer normalement, par des votes, de faire exercice de la démocratie. Il n'y a pas non plus de possibilité d'améliorer les échanges commerciaux. Et donc on creuse en fait la différence et les antagonismes entre Israéliens et Palestiniens.
Oui, c'est tout sauf un pont, en fait, parce que vous dites qu'il faut construire des ponts. Vous terminez ce livre, quand même, de géopolitique, avec des photos. Vous êtes photographe aussi, Alexandre Novosseïev, rappelons-le quand même. Des photos magnifiques sur des ponts dans le monde entier qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais vous finissez cet ouvrage sur un conte entre deux frères. Peut-être vous demander de nous le raconter ici. Il faudra peut-être lire le livre pour avoir le conte. Mais l'idée, c'est quand même que... quand on vous demande de construire un mur, vous pouvez aussi construire un pont, quoi.
Oui, si vous voulez dépasser la rancœur qui vous a conduit à construire un mur, il faut, on peut aussi envisager de construire un pont.
Oui, c'est possible.
Donc, il suffit de le vouloir et tout est possible, je crois.
Quel est le pont qui vous a le plus marqué, Alexandre Novoselov? Excusez-moi, j'écorche votre nom. Novoselov.
C'est vrai que la Chine, Corée du Nord, ça, c'était assez intéressant parce qu'on entre dans un univers complètement différent, qu'on croyait complètement fermé et qui en fait se révèle être un lieu de tourisme incroyable.
Oui. On voit la Corée du Nord, le côté
avec
du pont.
Des Chinois qui sont encore plus que nous intrigués par l'autre côté de la rive. Donc ça, c'est assez drôle. Moi, j'ai bien aimé aussi la Transnistrie parce qu'on arrive, on remonte le temps. En réalité, on arrive dans le dernier pays des Soviets. Donc ça, c'était assez drôle.
Et le prochain pont que vous voudriez peut-être aller photographier, répertorier, voilà, documenter?
Alors c'est beaucoup. Vrai que j'aurais bien aimé aller voir le pont sur l'Oyapock, ce pont qui est fermé, ça j'aurais bien aimé, j'ai pas eu le temps.
Pour un prochain ouvrage peut-être.
Peut-être une nouvelle édition du livre.
Merci beaucoup Alexandra Novoseyev d'être venue en direct. Je rappelle le titre de ce livre, donc essentiel et magnifique en plus, Des ponts entre les hommes, paru et édité par le CNRS et les éditions du Pont. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr télécharger et podcaster à volonté toutes nos émissions sur le site de RFI. Demain, comme tous les jeudis, c'est Sophie Joubert que vous retrouverez à ce micro avec Apolline Verlan-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver lundi prochain pour de nouvelles interrogations à partager ensemble. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à l'écoute de RFI. Un prochain journal dans une trentaine de secondes.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.